Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être présents parmi nous. Je voudrais tout d'abord remercier la Caisse primaire d'assurance maladie et bien sûr l'espace Mades France qui nous a permis et qui nous permet ce soir de faire cette conférence ou cette table ronde, on l'appellera peut-être plutôt une table ronde. Alors, nous ne sommes pas des professeurs, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des conférenciers, mais tout simplement des personnes diabétiques. De quoi on va vous parler, du vécu avec le diabète. Une autre personne interviendra qui parlera, elle, du vécu avec quelqu'un qui est diabétique. Et on terminera également par comment voyager quand on est diabétique. Ce n'est pas insurmontable, vous allez voir, on va pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, avant de commencer notre débat, notre conférence, je vais laisser la place à Jacqueline qui va nous parler de l'activité que nous menons et que nous menons en partenariat avec la Caisse primaire dans le cadre de SOFIA. Je pense que tout le monde maintenant connaît SOFIA. Eh bien, voilà les actions que l'on mène. Voilà, je te passe la parole.
Merci. Alors, à travers les valeurs d'entraide, de partage et de solidarité de l'AFD, nous mettons en place une action d'accompagnement qui s'intitule « Élan solidaire, dynamisation, qualité de vie, diabète ». Ce dispositif se présente sous deux formes, des entretiens individuels, des groupes de rencontres. Excusez-moi, je vais plutôt me mettre là pour être plus à l'aise. Six patients. Cette action est animée par six patients experts. Colette, Jacqueline, Jean-Claude, Josiane, Marie-Hélène et Marie-Madeleine. Bénévoles engagés, ces patients experts ont suivi une formation à deux niveaux. Premier niveau, il s'agit des connaissances du diabète. Ils connaissent leur diabète, mais ils devaient connaître toutes les formes de diabète, ainsi que le système de santé. Deuxième partie, ce sont les méthodes d'animation qui nous ont été enseignées deux fois deux jours par un professionnel. Et cette formation a été validée par un examen pour vérifier l'acquisition des connaissances, notamment dans le domaine technique de l'animation. Cette action s'adresse à qui ? Aux diabétiques qui en éprouvent le besoin, parce qu'ils se sentent isolés, parce qu'ils éprouvent un mal-être, parce qu'ils s'interrogent sur leur qualité de vie, parce qu'ils appréhendent l'avenir, parce qu'ils doutent, mais aussi à leurs proches, parce qu'ils veulent comprendre leurs conjoints, parce qu'ils souhaitent partager leurs angoisses et les soutenir. Il s'agit d'une action complémentaire au programme SOFIA du régime général de la sécurité de l'assurance maladie, qui lui est un accompagnement thérapeutique téléphonique personnalisé. Il est complémentaire également à l'éducation thérapeutique dispensée par le CES, le Centre d'examen de santé, par exemple. Les patients experts interviennent sur un tout autre terrain. Ils favorisent les échanges d'expériences sans aucune ingérence dans le traitement. Dans ces groupes de rencontres, quels thèmes abordons-nous ? Bien sûr, les échanges d'expériences, mais également l'alimentation, la diététique, l'activité physique, les complications du diabète, tout autre domaine, également les droits du diabétique. En fonction des besoins du groupe, on fait intervenir des professionnels comme un nutritionniste, une diététicienne, un éducateur sportif, un pharmacien, un médecin, selon les besoins du groupe. Alors, il s'agit donc pour le diabétique de s'exprimer, de témoigner dans un climat de convivialité. La parole n'est pas obligatoire parce qu'elle n'est pas toujours facile pour certains. la confidentialité est un principe de base. Quels sont les objectifs ? Trouver une écoute et un réconfort. Mieux gérer et mieux vivre son diabète au quotidien. Et ainsi, éviter ou faire reculer les complications qui sont douloureuses pour le patient et très coûteuses pour l'assurance maladie. Permettre au diabétique de devenir acteur de sa propre santé. Pour l'année 2014, notre programme comprend 8 entretiens individuels. Le lieu sera déterminé. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler dans un groupe. Alors, le lieu déterminé, ça peut être à domicile, si la personne ne peut pas se déplacer, ou au siège. Il y aura également 3 groupes de rencontres, un à La Roche-Posay, un à Poitiers, un à Vouillé. La date limite d'inscription étant le 10 décembre 2013. C'est donc, pour les rencontres collectives, il s'agira d'un groupe d'une dizaine de personnes qui se rencontrera une fois par mois sur l'année, à l'exception des périodes de congé. Et chaque séance durera environ 2 heures. C'est une action de solidarité gratuite à travers un accompagnement de patient à patient qui aideront nos pères à mieux connaître leur maladie, à l'accepter, à en faire une alliée pour mieux la maîtriser et parcourir avec elle un chemin de vie dans les meilleures conditions possibles. Car le diabète, c'est tous les jours et pour toujours. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, nous avons des... On peut prendre les adresses. Et on avait des fascicules, mais je vais aller les chercher dans la voiture parce qu'ils ont été repris. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci. Bon, voilà, en préambule, si je puis dire. Comment va se dérouler cette soirée ? Donc, on va intervenir chacun notre tour. Il y aura Josiane qui interviendra, il y aura Bernard, il y aura Françoise et moi. Et à la fin de nos interventions, on laissera la parole à la salle pour échanger. Donc, on va être le plus précis possible et le plus court possible pour que vous puissiez poser un maximum de questions et on essaiera de répondre aux questions. Sachez que si toutefois vous posez des questions d'ordre médical, nous ne répondrons pas, nous n'avons pas de médecin pour répondre. Et ça, on se refuse totalement de parler d'un soin, par exemple, parce que ça, c'est le travail d'un médecin. Donc, on n'est pas médecin. Alors, l'AFD, l'Association française des diabétiques de la Vienne, eh bien, on est relié au niveau de l'Association française des diabétiques au niveau national. Nous avons à peu près, il y a à peu près en France 3 millions de diabétiques du type 1, de type 2. Le plus embêtant dans tout ça, c'est qu'il y a à peu près 30% de ces 3 millions qui s'ignorent parce que c'est comme ça, ou par déni de la maladie. Vous savez, on est ici depuis hier après-midi, on a vu des personnes, même encore cet après-midi. Non, je ne veux pas savoir. Alors, si cette personne a peut-être un doute sur son état, eh bien, c'est ce qu'on appelle le déni, bien sûr, mais on ne peut pas la forcer. L'association, le rôle de l'association est au sein du département, on accompagne, on informe, on fait de la prévention, la défense et de la protection sociale et juridique, parce qu'il faut savoir que quand on est atteint de cette maladie, on n'appelle plus ça aujourd'hui une maladie d'ailleurs, on appelle ça plutôt une épidémie du fait qu'il y a un pourcentage qui augmente d'une façon considérable et qui est très inquiétante pour nous tous. Donc vous savez que certaines personnes ne peuvent pas garder leur emploi. Certains employeurs, une certaine indélicatesse de dire, ben voilà, tu es malade, tu es risqué, tu es à risque, eh bien, on ne va pas te garder ou alors on la met au placard. Il y a un autre problème aussi, c'est que les personnes qui ont besoin de contracter un emprunt, surtout un emprunt à la construction. Les assurances qui assurent ces emprunts, plus exactement qui nous assurent pour l'emprunt, eh bien, ne veulent pas nous assurer. Alors, l'Association des diabétiques a passé un contrat avec une compagnie d'assurance qui est Allianz, pour ne pas la nommer, qui, elle, couvre qui prend en charge les assurances de ces emprunts. Donc, vous voyez que le chemin d'un diabétique n'est pas toujours droit et assez compliqué. Quand on passe un permis de conduire, c'est pas facile, vous savez, c'est à peu près une ou deux personnes par an au sein de l'association qui viennent nous voir, qui viennent nous dire « Oui, mais moi, mon permis de conduire, on va me le supprimer parce que je suis diabétique. » J'ai eu un cas, et je ne vais pas m'étendre trop longtemps, un jeune qui était en train de passer son permis de conduire et malheureusement, à un moment donné, entre le début de son permis de conduire et le moment de le passer, ben, on lui a découvert un diabète. Il est venu nous voir, on l'a aidé sur le plan juridique parce qu'un diabète ne peut pas dire qu'on ne peut plus conduire un véhicule à moteur, simplement. Il y a effectivement certaines professions auxquelles on ne peut pas accéder et ça se conçoit parce que, tel qu'un transport en commun, on peut prendre un risque, on peut très bien avoir un malaise. Vous allez me dire, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous faites un malaise et que vous allez taper dans une voiture, c'est aussi embêtant. Voilà, voilà en gros quel est une partie des rôles de l'association. Nous faisons de la prévention, nous faisons du dépistage comme on l'a fait ces jours-ci. On fait aussi en milieu scolaire, en grand public. Et on est surtout à l'écoute de toutes les personnes qui ont besoin d'être écoutées par rapport à cette maladie. Voilà, je ne voudrais pas m'étendre plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir échanger dans la salle. Et pour continuer, eh bien, je vais présenter... je ne vais pas présenter Bernard. Bernard, il est assez grand pour se présenter tout seul. Ben, je te laisse la parole, Bernard. Et puis, tu vas nous expliquer... Quel est ton parcours avec ton diabète? Voilà.
Merci Jean-Claude. Oui, bonsoir à tous. Je me présente, Bernard, je suis diabétique de type 1 depuis 40 ans. Mon diabète s'est déclaré en 1973 et comme tout diabète, il a été abordé avec un traitement au comprimé, comme tout diabétique déclaré à n'importe quel moment. Néanmoins, les comprimés n'ont pas suffi et je suis vite passé à l'insuline car mon état s'aggravait et j'avais une hémoglobine glycée qui était très, très mauvaise. Je suis passé à une injection, deux injections, trois injections et au bout d'un certain temps, j'étais à 5 injections par jour. Mais néanmoins, le constat était tel que il est vrai que mon activité professionnelle, qui n'est pas la cause de mon diabète, mais qui me prenait beaucoup de temps, aussi bien dans l'angoisse, dans les non-respects des horaires de repas, ne me donnait pas satisfaction au point de vue de mon hémoglobine glycée. Et en 2000, mon hémoglobine glycée était à 12%, donc il a fallu éteindre le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été hospitalisé et le médecin m'a conseillé d'éteindre le feu en mettant une pompe à insuline. Qu'est-ce qu'une pompe à insuline? Tout le monde ne verra peut-être pas, mais ce n'est pas très important, une pompe à insuline. C'est un microprocesseur avec un réservoir d'insuline. Vous voyez, le microprocesseur, il est grandeur d'un téléphone et nous l'avons à la taille, relié avec une tubulure et un cathéter. Donc, cette pompe, l'intérêt de cette pompe, c'est que toutes les 3 minutes, elle envoie une micro-injection d'insuline, ce qui permet à mieux réguler le sucre dans le sang. À l'intérieur de ce microprocesseur, il y a un programme qui a été déterminé par l'hôpital. Ce programme est d'abord le basal. Qu'est-ce que le basal? Le basal, c'est un programme avec de l'insuline qui s'injecte toutes les 3 minutes et qui me donne une insuline pour vivre. Ça me permet de vivre toute la journée. Et au moment des repas, il y a la même insuline, mais qui se transforme en bolus, c'est-à-dire que je me fais un bolus, un supplément d'insuline, mais je le fais moi-même manuellement, en fonction de mon alimentation. Et avec ça, ça contribue à avoir un équilibre et une meilleure hémoglobine glycée, tout en respectant, bien sûr, certains points très délicats tels que l'activité. Parce que la pompe à insuline ne m'a pas guéri de mon diabète, a fait que de le stabiliser et de l'équilibrer. Néanmoins, cette pompe à insuline, il y a quand même quelques manipulations à faire. Ça, nous l'avons appris au niveau de l'hôpital. Il faut savoir changer le réservoir qui se trouve à l'intérieur, surtout le remplir d'insuline rapide, et sur, tous les 3 jours, et de changer le cathéter. Un cathéter, c'est une petite tubulure qui fait environ 7 mm que je m'injecte dans la ceinture abdominale avec un appareil adéquat. Et ça, je le change tous les 3 jours. Alors, bien sûr, le réservoir d'insuline n'est pas éternel. Il y a des fois, je consomme plus d'insuline que d'autres jours, mais la pompe détient une alarme. Lorsque j'arrive à 20 unités restantes d'insuline, elle m'alerte par un signal sonore. Sachant que je grille tant d'unités par jour, c'est à moi de m'organiser pour changer mon cathéter. Qu'est-ce que peut apporter la pompe ? La pompe, elle apporte un certain confort. Confort, d'abord, au niveau de l'équilibre du diabète, mais confort au niveau de mon activité physique, car ça ne m'a pas guéri, ça a amélioré l'équilibre, mais il faut néanmoins faire une activité en parallèle, une activité physique. Quand vous êtes injecté le matin avec un stylo, une dose constante, et vous souhaitez faire de l'activité physique plus dense dans la journée, vous prenez un risque. Le risque que vous avez, c'est de faire une hypoglycémie. Avec la pompe, c'est vrai qu'il arrive des hypoglycémies, mais ce n'est pas fréquent. Car quand je sais que je vais faire une activité physique qui n'était pas prévue, il y a un programme, je vais dans le programme, je limite le débit de ma pompe, c'est ce qu'on appelle un débit temporaire, pendant le temps que je souhaite faire l'activité physique. C'est-à-dire, ça peut être un débit pendant une heure et demie ou 2 heures. Le pourcentage peut être de 10%, de 20% ou 30%, ce qui m'évite de tomber en hypoglycémie. Sachant que vous savez très bien, vous les diabétiques et nous les diabétiques, que lorsqu'on tombe en hypoglycémie, c'est très désagréable et on n'a qu'un souhait, c'est revenir à un taux d'équilibre qui est moins désagréable que l'hypoglycémie. On fait souvent l'erreur, car la maîtrise d'une hypoglycémie n'est pas toujours respectée, on passe tout de suite dans l'hyperglycémie, parce qu'on saute du moins au plus en s'alimentant ou en absorbant trop de sucre. Et quand vous passez, vous basculez en hyper, il faut après rétablir, avoir pendant plusieurs heures des contrôles de manière à redescendre à une glycémie tout à fait normale qui se situe entre les repas autour de 1 g, 1 g 26. Et ça, c'est toujours le côté délicat. Cette pompe, elle a des alarmes, vous n'êtes pas seul. Elle vous avertit lorsque vous avez la tubulure qui relie du cathéter à la pompe, lorsque la tubulure est coudée, elle vous lance une alarme. Non injection d'insuline. C'est à vous d'intervenir. Elle vous dit, lorsque vous avez le cathéter, l'embout de 7 mm qui est coudé, il peut se couder ou se déconnecter un peu de l'épiderme. Elle vous annonce, avec un bip, comme quoi vous n'avez pas d'injection. Et vous rétablissez, vous repurgez la pompe, et ça repart sur un cycle normal. Alors, vous voyez que ce n'est pas la panacée, car en fin de compte, il y a un cathéter, une tubulure. Vous savez les risques de la tubulure, on peut s'accrocher en faisant du jardinage, en faisant du bricolage, ou en avoir des mouvements un peu brutaux. Mais néanmoins, moi, dans mon cas, je suis ravi d'avoir une pompe, car ça m'a changé la vie, et je suis tellement heureux d'avoir retrouvé une hémoglobine glycée tout à fait correcte après 40 ans de diabète. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur la pompe, vous pourrez, comme a dit Jean-Claude, à la fin de l'intervention, eh ben, m'interpeller, je pourrai vous répondre, sauf bien sûr sur des questions tout à fait médicales. Merci à tous.
Merci Bernard. Donc vous voyez, avec le diabète, on peut quand même vivre. Et il y a surtout un progrès considérable sur le soin, sur les insulines, sur la façon de les injecter, la pompe, que ce soit un stylo. Bon, on va changer un petit peu de registre, mais on reste toujours dans le diabète. Et ça va être avec Françoise. Françoise, elle, c'est un diabète de type 2, je crois. Hein, et elle va nous parler comment elle a découvert, est-ce que ça a pu faire quand le médecin lui dit, madame, ben, vous êtes diabétique. Alors Françoise, ben, je vous laisse la parole et vous allez pouvoir expliquer comment vous avez vécu votre diabète.
Oui, bonjour. Voilà, ben, moi j'ai découvert mon diabète en début de ma retraite, jusqu'à maintenant...
Plus près du micro, parce qu'on n'entend pas. Mettez-le en face.
Donc, au début de ma retraite, j'ai eu... C'est bon. Donc, j'avais des prises de sang régulières, tous les 3 mois, parce que, bon, bah, par mon métier. Et arrivé un moment, mon médecin m'a dit... Madame, il va falloir faire attention, votre diabète monte. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai vécu normalement, sortie, resto, apéro, enfin bon, normalement, sans m'inquiéter. Et puis bon, alors là, quand le médecin m'a dit, bon, ben, il faut faire attention, là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, comme par hasard, j'ai eu une convocation pour faire un bilan complet de santé. Donc j'y suis allée, et bon, là, bien sûr, on a vu que j'étais diabétique, et on m'a proposé un atelier pour apprendre qu'est-ce qu'était le diabète, comment le gérer, quelles étaient les maladies qui pouvaient provoquer, ce qu'il fallait faire attention. Donc j'ai assisté une journée par semaine pendant 5 semaines sur cet atelier qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris comment manger un fruit, comment équilibrer mes repas. Et depuis, j'ai perdu un petit peu de poids et je sais maintenant, mais bien sûr ça c'est pas un régime, hein, ça sera à vie, hein, il faut équilibrer ses repas à vie, hein, ça c'est... Voilà, moi, ma petite histoire, mais je suis que sous comprimé. Je n'ai pas d'insuline. Voilà.
Merci Françoise. C'est bien. C'est un autre type de diabète, c'est un diabète de type 2. Et c'est un diabète, quand on parle du diabète de type 2, on peut penser qu'il est génétique, qui peut être transmis, à savoir que le diabète de type 1, comme celui de Bernard, lui, c'est autre chose, il ne se transmet pas. Donc, eh bien, Françoise, elle a découvert certainement quelque chose, ça peut être évident. Hein. Mais enfin, elle est parmi nous, c'est très bien de nous expliquer comment elle l'a vécu. Vous voyez, c'est pas toujours facile de découvrir cette chose-là, mais en faisant avec un peu de recul, on arrive à le gérer. Bon. Maintenant, ça va être à Josiane. Josiane, elle, n'est pas diabétique. Mais par contre, elle vit avec une personne diabétique, son mari en l'occurrence. Josiane connaît le monde médical, mais elle ne va pas nous expliquer comme moi je suis en train de vous l'expliquer, parce qu'en même temps, elle est un peu poète. Et elle va nous donner ça sous forme de poète qui, je vous avoue, je l'ai relu parce que bah, il fallait quand même que je lise un peu ce que vous alliez dire. Et j'ai dit, tu changes rien, tu continues, tu verras bien ce que tu diras à la salle. Donc, je te laisse la parole et
bon,
à toi.
À moi, alors. Je sais pas si ça va, vous m'entendez ? Bon, bon bah, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Josiane, et si je suis très concernée par le diabète, c'est parce que mon conjoint est diabétique de type 2 depuis 17 ans, traité par comprimé. Peut-être y a-t-il des personnes qui se trouvent dans la même situation. Ce témoignage n'engage que moi. Il n'a pas valeur de référence. Je vous propose le plan suivant. Pourquoi témoigner ? Puis je parlerai du quotidien, avec l'annonce de la maladie, la vie quotidienne, les événements particuliers, les vacances, les repas festifs, etc. Puis, je conclurai brièvement. Pourquoi témoigner ? Parce que je suis convaincue que cette fichue maladie, comme toutes les maladies chroniques et qui ne se voient pas, entraîne chez le patient et son conjoint un comportement différent. Il faut donc en prendre conscience, bien se connaître pour s'aider mutuellement. Le but étant de mieux vivre avec son diabète. Dans notre couple, c'est un peu comme les vases communicants. Mais oui, l'un va mal, l'autre compense et vice-versa. Il y a toujours un avant-diabète et jamais un après-diabète. Lorsqu'on est diabétique, on l'est pour la vie, sauf de rares exceptions. Il n'y a d'ailleurs pas de petit diabète. Mais je vous rassure, on peut bien vivre avec. Il suffit de composer avec lui toujours. L'être humain est fantastique. Il s'adapte à toutes les situations. Bon, bien ou mal, comme il vous le dirait. Je vais vous parler maintenant du quotidien. Ah là là, à l'annonce de la maladie, ce fut très difficile. Il est passé par toutes les phases de l'annonce, la colère, le déni, la culpabilité et pas vraiment l'acceptation. Mais que feriez-vous si on vous annonçait une mauvaise nouvelle ? Chacun réagit différemment, toujours en fonction de son vécu. Lui, il a refusé d'entendre le diagnostic. Il a refusé l'hospitalisation. Il avait un caractère de cochon. Mais cela est normal. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Pour moi, ce fut difficile aussi. Comment l'aider à en prendre conscience ? Trouver le juste milieu pour dire les choses. Et faut-il les dire ? Je pense que oui, parce que même si on refuse de les entendre, on avance à petits pas. Et on finit, pas par accepter, mais entrevoir une solution, une issue. Ne jamais se précipiter. On est dans du chronique, on n'est pas dans une maladie aiguë. Pour lui, ce fut une journée à l'hôpital de jour. Non pas une semaine, hein, comme le médecin l'avait prescrit. Je ne l'ai pas accompagné. Bien sûr, il m'a raconté et j'ai pu l'écouter avec empathie, j'espère. J'ai tout de suite compris que ce ne serait pas facile. Mais cela fait 17 ans et finalement, tout se passe plutôt bien. Nous avons été aidés en cela par l'AFD. Et le fait de rencontrer des personnes comme nous nous a permis de prendre du recul et passer de bons moments conviviaux, par exemple la galette des rois, les randonnées, etc. Maintenant, je vais vous parler de la vie quotidienne. Je ne sais pas si le diabète fait partie de sa vie, mais pour moi, il est presque toujours présent. Oui, dans notre couple, je prépare les repas, et malgré qu'une personne diabétique puisse manger de tout, il faut quand même toujours réfléchir. Ne pas associer trop de graisse avec les sucres. Les portions ne doivent pas être trop importantes. Et surtout, pour lui, il a fallu peser la quantité de pain. Difficile de penser à diminuer le pain quand on mange des pâtes et des pommes de terre. Et pour un bon vivant, ça n'a pas été tous les jours facile. Il a fallu composer. Mais nous, les femmes, on sait faire. Et finalement, ce qui est très important, c'est que les repas d'un diabétique sont ce que tout à chacun devrait manger. Mais donc, finalement, c'est lui qui m'a aidé à prendre conscience du bon équilibre alimentaire. Notre objectif à tous les deux, c'est qu'il ne prenne pas trop de poids. Car s'il grossit, son taux d'HbA1c, c'est-à-dire l'hémoglobine glycée, va augmenter. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le taux d'hémoglobine glycée, c'est le marqueur du diabète. C'est le pourcentage d'hémoglobine des globules rouges ayant fixé du glucose pendant 2 ou 3 mois. Donc, si ce taux augmente, ben les complications risquent d'apparaître. Nous les connaissons bien. Sa mère est décédée suite à des problèmes d'insuffisance rénale, début de gangrène du pied et problèmes visuels. Donc, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ceci dit, on peut toujours faire de bons petits repas conviviaux s'ils ne sont pas répétés tous les jours. Il a pesé 102 kilos. Il disait, pour rire, 0 tonne 102. Et maintenant, son poids est stabilisé depuis de longues années à 82 kilos. C'est lui qui a pris la décision de perdre du poids. Et il a été aidé en cela par une diététicienne et un médecin nutritionniste. En ce qui concerne l'activité physique, nous sommes convaincus de l'importance de bouger tous les jours un peu. Pour lui, ce fut assez facile au moment de la retraite, car sa vie a basculé de sédentaire. Il a entrepris de gros travaux de bricolage. Mais, oui, il y a toujours un mais. C'est difficile de trouver encore un juste milieu. Soit il a une activité délirante, soit eh bien, il est sédentaire toute une journée. Ah, cela, je vais vous dire ce que je ressens véritablement. Lui, il sait ce qu'il faut faire toujours. S'il ne le fait pas, c'est lui qui décide de sa vie. Et c'est bien normal. Il dit souvent, « Je choisis les personnes avec qui je creuse ma tombe. » Moi, je sais aussi ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais je ne peux rien décider. Et c'est normal aussi. Donc, c'est quand même compliqué pour moi. Et mon état, plus ou moins anxieux, entraîne forcément un peu de stress. Mais je vous rassure, ce n'est pas dramatique. Le suivi du traitement, les examens complémentaires, les visites médicales, il gère très bien. Je suis au courant, je n'assiste jamais aux visites avec le médecin traitant, sauf s'il le souhaite. C'est un endroit qui lui est réservé et la confidentialité est de règle. Par contre, lors des visites annuelles à l'hôpital de jour, je l'accompagne, car nous voyons ensemble la diététicienne, ce qui m'aide beaucoup. Lors de la visite avec le diabétologue, j'essaie de l'accompagner pour être bien en phase avec l'objectif à atteindre. À ce sujet, lorsqu'il y a eu une modification du traitement avec un passage à un sulfamide hypoglycémiant, heureusement que j'étais au courant, car il a eu une hypoglycémie ressemblant aux symptômes d'un AVC. Et là, j'ai eu très peur. Le fait d'être au courant, ça l'a aidé, il s'est resucré. Tout de suite, ça a permis qu'il retrouve un comportement normal. Depuis, je remarque souvent avant lui, lorsqu'il est en hypo, il devient irritable, agressif, il bâille. Les événements particuliers, les vacances, repas festifs. Au début, je réagissais très mal et je ne savais pas comment me comporter lorsque je voyais les plats défiler. Je sais que je pouvais être désagréable et cela entraînait un stress supplémentaire pour lui. Il m'est même arrivé, il ne le savait pas, hein, il m'est même arrivé de prévenir les personnes avant le repas. Depuis, j'ai appris à mieux gérer mes émotions, à lui faire confiance et mieux me comporter. On a atteint la vitesse de croisière, son diabète est équilibré et nous vivons bien tous les trois, lui, le diabète et moi. En conclusion, ma conclusion, elle sera brève. Et vous, si vous étiez diabétique, et vous, si vous viviez avec un conjoint diabétique, et vous, si vous ignoriez que vous êtes peut-être diabétique, que pourriez-vous faire ? Je vous remercie de m'avoir écouté.
Deux questions. Merci Josiane, je vous l'avais dit. C'était dit par une voix de poète. Alors, on va conclure ce petit échange, enfin pour nous, et après on va pouvoir vous donner la parole à la salle. Et vous avez entendu Bernard qui, depuis 40 ans, vit avec son diabète et qui le gère très bien. Il est passé à un mode de soins qui est le sien, qu'il a aimé, c'est vrai. C'est quelque chose qui évite de se piquer trop souvent. Françoise qui nous dit, voilà, il y a 10 ans, je découvre mon diabète et bien sûr, un petit peu la terre qui s'écroule devant les pieds. Et puis comme vient de nous dire Josiane, cette personne, elle a vécu à côté d'un diabétique et a continué à côté de son diabète. Son diabétique, pardon. Maintenant, ça, c'est pour le quotidien, mais il ne faut pas se renfermer avec le diabète chez soi et de dire je ne sors plus, je ne voyage plus, surtout pas. Vous pouvez voyager, moi je voyage. Notre dernier voyage, qui remonte à 2-3 ans, on est parti en Inde. L'Inde, c'est quand même pas tout à fait à côté. Eh bien, tout s'est bien passé. Une petite préparation, une quinzaine de jours avant, parce que on a un décalage horaire, on a un rythme de vie qui est totalement différent, mais rassurez-vous, c'est un rythme de vie qui est plutôt relax que quand on est là derrière son bureau, au niveau de l'association ou chez soi, parce qu'il y a toujours un stress, le stress tombe. Moi, je vous dis, quand le stress tombe au moment où on embarque, où on coupe les téléphones, et puis tout se passe bien. Comment partir ? Alors, pour les personnes qui sont sous comprimé, le problème ne se pose pas ou moins compliqué que pour ceux qui sont à l'insuline. Les personnes qui sont à l'insuline, il faut savoir que l'association des diabétiques, l'AFD en l'occurrence, a négocié avec toutes les compagnies mondiales de transport civil de sorte à ce que l'on puisse partir avec nos insulines dans nos bagages à main. Il y a quelques années, on ne pouvait pas le faire. Et il y a quelques années, les avions étaient certainement moins bien isolés en ce qui concerne les soutes. Et c'était un problème parce que tout dépend où se trouvait son bagage. S'il était au milieu, ben, ma foi, il y a peut-être moins de risque de geler. Mais s'il se trouvait côté d'une paroi et du côté de où il y avait l'insuline, l'insuline gèle. Et quand l'insuline gèle, elle n'a plus d'efficacité. Alors aujourd'hui, eh bien, on voyage avec nos insulines dans les bagages à main que l'on trouve dans les soutes. Certaines compagnies viennent, quand vous êtes installé, viennent vous demander votre insuline et ils vous la mettent au réfrigérateur. Et au moment où on a besoin, vous savez comment ça se passe, on appelle l'hôtesse et elle nous apporte notre insuline, mais ça ne pose aucun problème. Même pas au passage des douanes. On passe aux douanes, tout le monde passe aux douanes. Il suffit tout simplement d'avoir un certificat médical sur lequel on met qu'on est diabétique et qu'on est sous insuline et on attend d'injection d'insuline. Les médecins savent très bien faire ce genre de choses, d'autant plus que ce sont eux qui nous suivent. Donc, vous présentez ce document à la douane. Ce n'est pas la peine de le traduire en anglais, parce que les douaniers, en principe, ils connaissent toutes les langues, ou du moins, ils savent se débrouiller pour pouvoir le comprendre. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mot insuline, qui se termine avec un E ou sans E, c'est un mot international. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique, que vous soyez dans le sud de l'Afrique, Eh bien, quand vous parlez de l'insuline, et de l'insuline, ça s'écrit de la même façon et on le prononce de la même façon. C'est déjà un avantage. Quand vous partez, que vous avez 8, 10 heures, 12 heures d'avion, là, c'est à vous de vous munir de quand même de tout votre matériel, y compris les contrôles, les lecteurs glycémiques, hein, ils vous les laissent dans votre bagage. Et donc, ayez suffisamment d'insuline sur vous pour ne pas tomber en panne d'insuline avant que l'avion arrive à destination. Soyez prévoyant également quand vous atterrissez, parce que on ne sait pas, et on le sait, mais c'est comme ça dans le monde entier, les bagages, on n'arrive pas à 10 minutes, un quart d'heure après, des fois le bagage reste dans une soute ou ailleurs, je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'aviation. Et donc si on laisse toute une grande partie de nos insulines dans le sac qui est dans la soute, eh bien soit on peut le perdre, ou soit attendre longtemps. Et si vous n'avez plus d'insuline, en France, on n'a pas trop de soucis parce qu'on voit un médecin, il vous examine et après il peut prescrire une insuline. Mais quand on est dans certains pays étrangers, ce n'est pas du tout de la même façon. Restons dans un pays qu'on connaît, qui est le Canada, par exemple, eh bien, on ne peut pas passer, pas aller voir, sonner à la porte d'un médecin, et puis bonjour, voilà, j'ai oublié mon insuline dans ma soute, et puis elle est perdue. Donc, prévoyez quand même dans votre bagage à main de l'insuline pour éventuellement une journée, une bonne journée, une journée et demie. L'insuline, et ça, c'est par expérience, l'insuline n'est pas, ce n'est pas nécessaire de la mettre au réfrigérateur. Bien sûr, si vous la laissez à l'extérieur pendant des mois et des mois, il est certain qu'elle n'aura plus de valeur, elle n'aura plus de qualité. Mais pendant une période de voyage de 15 jours, 3 semaines, eh bien, vous pouvez garder vos insulines avec vous. Si vous êtes parti dans les pays qui fait chaud, où il fait 30, 35, voire plus peut-être, ne l'exposez pas, bien sûr, sur votre sac à dos ou à l'arrière d'une vitre. Mettez-le au fond de votre sac et enveloppé d'un petit sac isothermique que l'on a. Et votre insuline se conservera bien. Et rassurez-vous que quand vous aurez besoin de faire votre soin, eh bien, l'insuline sera toujours là, elle aura toujours son efficacité. Voilà. Si vous avez peur qu'il y ait une rupture du froid par rapport à ce qui est prévu, mais je comprends, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça soit au réfrigérateur. Si les médecins, si les chercheurs disent qu'il faut que l'insuline, à un moment donné, soit au réfrigérateur, il faut qu'elle y soit, il y a de très bonnes raisons. Mais si vous avez peur, eh bien, tout simplement, avant de partir de chez vous, si vous avez 2 silos, 3 silos ou quelques cartouches pour les pompes à insuline, eh bien, vous faites partir quelques unités, 4-5 unités, vous rebouchez et le stylo est enrayé. Parce que quand on fait nos soins au quotidien, vous ne remettez pas le stylo au réfrigérateur. Du fait que c'est commencé, vous le gardez à la température ambiante. Donc, si vous avez peur de partir avec des stylos pleins, eh bien, vous faites partir quelques unités d'insuline qui ne va pas vous handicaper pendant votre voyage et vous pourrez voyager comme tout le monde. Pour les personnes qui ont une pompe à insuline, eh bien, aux douanes, ça ne se pose pas de problème, bien sûr, toujours le certificat. Et puis, il faut montrer la pompe à insuline. Là, c'est une pompe à insuline. Si le douanier a un doute, eh bien, il n'est pas nécessaire de faire appel à un médecin. On sait qu'il y a des médecins dans les aéroports, mais ils ne sont peut-être pas toujours tout présents dans l'immédiat. Vous appelez le responsable de la sécurité des douanes et lui, eh ben, il validera le passage et vous remettrez votre pompe à l'endroit où vous avez l'habitude de la mettre et vous partirez dans l'avion et vous ferez votre voyage. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur un vécu avec de l'insuline dans des pays assez lointains de l'Europe, en l'occurrence. C'est terminé, on n'a plus autre chose à vous dire que tout simplement à vous écouter, à écouter vos questions et on va essayer de répondre.
Je connais un peu la maison. Qui a envie de poser une question ?
Tout le monde connaît bien.
Bon, je vais commencer par une question alors pour vous lancer. Allez, je vais jouer à la fois la salle et.
On va essayer de répondre.
Et voilà. Donc c'est pas tellement une question, c'est plus une remarque puisque moi je suis un peu comme Josiane. Moi le diabète il est à côté de moi, c'est un plus petit diabète puisque c'est mon fils de 10 ans qui est diabétique depuis qu'il a 2 ans et il est sous pompe à insuline. Et même si c'est mon enfant et pour mon mari, bien sûr, toutes sortes de choses que vous avez dites très joliment tout à l'heure me touchent, puisqu'évidemment c'est un petit peu différent, mais malgré tout, avec un enfant, il faut aussi savoir ne pas penser à la place d'eux, le laisser faire son chemin, etc. Moi, je voudrais dire que je suis assez admirative de toutes les personnes adultes diabétiques que je rencontre, parce que moi, je vois mon fils qui peut bénéficier de la pompe à insuline, des petits trucs pour se piquer les doigts qui font de moins en moins mal, on est de plus en plus suivi, on a de l'éducation thérapeutique, et je sais que parmi vous, d'autres sont passés par d'autres traitements qui pouvaient être plus douloureux, plus contraignants, moins faciles. Donc voilà, je comprends bien les difficultés et tout ce que vous avez dû vivre pour continuer à rester en forme et bien vivre comme vous le dites. Moi, je voudrais dire par rapport aux parents d'enfants diabétiques, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai besoin de me rapprocher d'adultes de diabétiques et j'ai besoin de me rapprocher d'associations comme l'AFD, alors qu'il y a aussi des associations pour les jeunes diabétiques, il y a l'AJD, l'Association des jeunes diabétiques, il y a un club des familles ici. Parce qu'avec mon fils, nous, on a eu besoin très vite d'aller voir des adultes pour se projeter et pour se dire bah, comment on est avec 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus de diabète. Et moi, je me suis fait beaucoup d'amis diabétiques adultes et je trouve ça très rassurant, même si on connaît aussi les complications et il faut les connaître quand on est parent et mon fils commence à les comprendre un peu, moi je trouve que c'est très bien et moi j'aimerais bien qu'avec l'AFD on puisse parfois faire comme ça des échanges aussi un peu intergénération pour que nos enfants ce qu'ils souhaitent, hein, tous les parents ne le souhaitent pas c'est vrai, puissent vous rencontrer et puissent discuter, mon fils adorerait discuter avec vous de comment tu voyages ou il adore par exemple regarder la pompe des autres, alors regarder votre pompe et voir si vous êtes aussi rapide que lui, ça serait formidable, voilà, donc si on pouvait imaginer, pourquoi pas au moment où vous faites des petites rencontres comme ça, des choses comme ça.
Oui, et eh bien je vous dis oui, hein, on peut c'est tout à fait faisable, on peut faire des rencontres entre des parents qui ont des enfants diabétiques. Parce que c'est vrai, comme vient de dire madame, ils échangent avec d'autres personnes. Mais les enfants, tout le monde sait bien qu'un enfant, c'est pas très tendre avec eux et avec les petits camarades. Il est vrai que peut-être, des fois, comme vous dites, il aimerait échanger avec un adulte qui a vécu de diabète, avec le diabète, pardon, la manipulation de la pompe. Bernard, il faudra que tu t'en sers sur tes pouces, hein, parce qu'il est... Il est généralement, les enfants sont assez rapides. Hein. Voilà, tu veux dire quelque chose sur la pompe ?
Oui, ce que je voulais... Pardon. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est avec bonheur que j'aimerais rencontrer les enfants, car je les admire dans leur traitement, parce que je pense qu'ils doivent avoir un regard, ou les petits copains doivent avoir un regard sur ce petit garçon, cette petite fille qui détient une pompe et qui, et heureusement pour eux, sont aussi turbulents, bougent beaucoup et avec cette turbulure qui gêne de temps en temps dans les ébats des enfants, j'admire beaucoup et je leur dis bravo. Néanmoins, ce qu'il y a de bien au niveau du traitement du diabète pour les enfants et adolescents, c'est que au problème d'alimentation, il est mis en place un système d'alimentation qui s'appelle l'IF, l'insulinothérapie fonctionnelle. Et je crois que pour un enfant, comme tous les enfants, ils ont tendance à aimer ce qui est bon. Moi-même, à 65 ans, je suis un peu trop gourmand. Je suis bien content de trouver de l'IF. Qu'est-ce que l'IF ? Ça, c'est une chose qu'il faut parler. L'IF, c'est de calculer, quand vous vous alimentez, aussi bien le matin, le midi et le soir, de calculer le nombre de glucides qu'il y a dans votre repas. Il y a des petites brochures qui vous donnent les équivalences. Et quand vous avez, je vous donne un exemple, consommé un repas de midi où vous avez 45 grammes de glucides, vous avez un coefficient multiplicateur qu'on vous a donné, qu'on a calculé à une hospitalisation, et ça vous donne le nombre d'unités d'insuline. Un exemple, mettons que vous êtes à 2 unités d'insuline pour 10 grammes de glucides. quand vous avez mangé 40 grammes, 45 grammes de glucides, vous faites 9 unités d'insuline. Et ça, ça permet de vous alimenter comme tout le monde, comme un non-diabétique. Alors, bien sûr, le raisonnable, faut le garder. Faut consommer de l'insuline modérément. Mais je veux dire que moi, j'ai connu, il y a 40 ans, défunt le professeur Sudre, au CHU de Poitiers, qui était l'équivalent de M. Maréchaux, professeur Maréchaux d'aujourd'hui. Je vous garantis, lorsqu'il m'a détecté mon diabète, on n'avait plus que de la salade et des haricots verts à manger. Aujourd'hui, je mange comme tout le monde, dû à l'IF. Alors, ne nous voyez pas, nous, diabétiques, comme des gens qui sont pénalisés par leur pathologie. Pas du tout. Quand le diabète est équilibré et que les complications ne sont pas présentes ou les complications ont été apaisées, nous vivons comme tout le monde. Voilà ce que je voulais dire.
Alors moi, j'en ai une. Combien y a-t-il de diabétiques dans la salle ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus nous, 10, et bien voilà. Alors ça, c'est un constat que je rencontre souvent. Quand je suis dans des établissements scolaires, on a des enfants, on a à peu près 20, 25 enfants, trentaine d'enfants devant nous, et on pose cette question. Et on trouve le même pourcentage, c'est-à-dire à peu près un tiers. Voilà. De personnes qui ont du diabète ou des personnes qui connaissent quelqu'un qui a un diabète, mais pas le voisin ou le fils du voisin, c'est quelqu'un de proche. Je leur dis le papa, la maman, le frère ou l'oncle ou la tante, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on s'aperçoit que le diabète arrive de plus en plus jeune chez les enfants qui, avant, n'avaient pas cette maladie, et du fait d'une certaine sédentarité et d'une alimentation qui est un peu trop chargée en glucides. Il est bien, des fois, d'aller dans les fast-foods, c'est pas interdit, parce que ça serait dangereux, les lois l'interdiraient, mais il faut dire que les enfants, des fois, faut leur dire, oui, mais de temps en temps, ce qui est bien, ce serait de manger un repas bien équilibré. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au nombre de diabétiques que l'on peut voir et l'augmentation de diabétiques qu'on voit tous les ans. De mémoire, je crois que la France a atteint le pourcentage de l'Amérique du Nord en 1980 ou 1975-1980. Voilà. Et maintenant ?
Oui, les pourcentages
actuels. En France ?
Par rapport aux États-Unis.
Bien, les États-Unis ne régressent pas, se stabilisent, et la France augmente. Le pays au monde où il y en a le plus, ce sont dans les pays Émirats arabes. Il y a à peu près 70% de personnes qui sont diabétiques. Pourquoi ? Pourquoi ces pays-là, qui, avant les années 70, n'avaient pas de diabétiques, peut-être qu'ils n'étaient pas détectés, peut-être qu'ils n'étaient pas... Mais c'est que ces pays-là, ils avaient une autre vie que celle qu'ils ont aujourd'hui. Ils vivaient dans le... Ils étaient nomades, ils vivaient dans le désert, ils vivaient avec leurs animaux, et donc il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et on peut dire que c'est le fameux choc pétrolier qui a fait que, dans les années 70, qui a fait que ils ont eu un bon, ils ont eu de l'argent, et ils peuvent consommer... Et ils sont en grande consommation, et je vous dis, ça c'est le défunt notre professeur Vexio qui nous avait annoncé ça l'année dernière, c'est pas vieux, que les Émirats arabes, le Koweït en l'occurrence, c'était de 72% de la population qui était diabétique. Les médecins, ils ont du travail à faire. Pas de questions ? Vous savez tout, c'est bien. C'est très bien. Est-ce que vous savez qu'on ne meurt pas du diabète par lui-même? Il ne tue pas. Mais si on n'est pas attentif à son évolution, si on ne se soigne pas, si on se soigne mal, eh bien, il y a énormément de choses qui peuvent arriver. La rétinopathie, le problème des yeux, la neuropathie, les problèmes cardiaques, le problème des pieds, bien ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Moi, je dis que les personnes qui ont un diabète, il faut qu'ils soient suivis, il faut qu'ils surveillent souvent ses pieds. Moi, je regarde souvent mes pieds, une ou deux fois par jour. Hein. Je ne mets des choses pas le midi, rassurez-vous. Mais je regarde mes pieds quand je peux et quand je fais ma toilette. Quand je fais ma toilette, que je sors de ma douche, eh bien, je ne m'essuie pas totalement entre les doigts de pied, entre les jambes, sous les bras. Pourquoi ? Parce que tout simplement, notre serviette nous abîme un petit peu la peau. Les personnes qui ne sont pas diabétiques, ce n'est pas gênant, parce que ça va très vite se cicatriser. Et nous, on cicatrise un peu moins bien, ou pas, ou mal. Donc, je me sèche avec un sèche-cheveux qui a été programmé pour ne pas chauffer trop fort. Parce que si on a une perte de sensibilité, eh bien le sèche-cheveux peut chauffer. Hein, tant que dès que l'oroïque, la peau est roussie comme sur le poulet, c'est temps d'arrêter. Non, je plaisante, mais je ne le fais pas parce que je me suis aperçu que j'avais des difficultés à cicatriser à ces endroits-là. Voilà. Quand on est diabétique aussi, évitez de marcher sur la plage pieds nus. Parce que le soleil, en général, marche sur la plage pieds nus. C'est l'été, il y a du soleil. Le soleil chauffe le sol, le sable, et on ne s'aperçoit pas, nous, on peut avoir des petits problèmes de neuropathie et qu'on perde une certaine sensibilité des pieds, et que qu'en marchant sur le sable chaud, ben, le soir, quand vous arrivez à votre résidence, eh bien, comment ça se fait que j'ai mal sous le pied et j'ai le pied rouge? Ça, c'est un peu le dessous du pied rouge. Ça, il faut faire attention, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais ça a quand même brûlé.
J'aurais peut-être une remarque aussi par rapport à ce que vous parlez toujours du professeur X, du médecin, etc. Et je pense que c'est vrai que dans le diabète, alors je connais moins le type 2, enfin dans mon entourage évidemment, malgré tout, mais je connais plus le type 1. Et je pense que là, ce qui est super important quand on est diabétique, c'est la relation qu'on a avec son médecin. Et moi, j'ai vu trop, alors on est entre familles de diabétiques et diabétiques, on est aussi un peu présent sur les réseaux sociaux, avant on était sur les forums, et les gens s'échangent beaucoup, il y a une communauté quand même, un diabétique qui se parle, etc. Et moi, j'ai vu souvent des gens qui préféraient mentir à leur médecin, voire pas écrire ce qu'il fallait sur le carnet de glycémie, parce qu'ils avaient un peu peur du médecin, ou ils se culpabilisaient un peu. Et ça, je pense que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour avoir une relation de bien sûr, de plus en plus dans l'empathie, la confiance, le contrat. Enfin, moi, tous les médecins que j'ai rencontrés, ça s'est toujours très bien passé. Mais je pense que c'est assez important de trouver le médecin, les infirmières, les diététiciennes avec lesquelles on est à l'aise et avec lesquelles on peut dire, aujourd'hui, là, mon résultat n'est pas bon, mais on peut en reparler et pas être soit dans la crainte, soit dans la honte et surtout pas dans le mensonge parce que vous disiez tout à l'heure, il faut être acteur
de son soin.
Voilà, vous qui disiez ça, être acteur de son soin. Et être acteur, c'est aussi ça, c'est être capable d'aller dire à son médecin, ça, on est entre adultes, maintenant on va parler quoi.
C'est vrai, Josiane l'a bien dit tout à l'heure, il faut en parler à son médecin. Si on est suivi par un médecin généraliste, eh bien c'est pas parce qu'on va aller en consultation parce qu'on a mal à la gorge ou quoi que ce soit qu'on a besoin d'aller voir son médecin. Si on est diabétique, il faut lui dire, docteur, qu'en pensez-vous, qu'est-ce que je peux faire, comment faut faire? Faut rester ouvert avec cette maladie. Parce que cette maladie, si vous la gardez pour vous, que le médecin ne peut pas vous aider de vous prescrire un soin, eh bien, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est tous les risques qu'il peut y avoir autour. Et le pire, c'est le problème de cardiovasculaire. Quand le cœur s'arrête, il s'arrête. C'est pas un moteur de voiture. Donc, il faut, quand on a du diabète, si des personnes autour de vous ont du diabète, il faut leur en parler, il faut leur dire, va voir ton médecin. Et si ça ne va pas, si ça ne suffit pas, mais ça, le médecin généraliste, il est généralement conscient que c'est une maladie qui n'est pas facile à soigner, eh bien, il le dirige sur un diabétologue, un service de diabétologie, en l'occurrence. Voilà. Il est vrai qu'il ne faut pas rester comme ça.
Moi, moi, j'ai une autre aperçu un peu de du relation entre le malade et puis le médecin quand même. Quand on dit faut être acteur, faut vraiment être acteur, mais quelle que soit la maladie d'ailleurs, parce que on a pu rencontrer autour de nous des gens qui avaient des résultats complètement catastrophiques.
Oui, c'est vrai.
On les a alertés, et c'est suite à nos alertes qu'ils ont été voir un diabétologue directement. Et ces gens-là, je pense à des gens en particulier, nous remercient à chaque fois qu'on se voit.
C'est vrai.
Parce que
c'est
depuis, vrai. Il a réglé le problème.
C'est vrai.
Mais son médecin traitant n'y avait pas été passé à côté. Alors, on n'est pas dans les entretiens entre la personne et le médecin.
Oui.
Lui n'a peut-être pas non plus écouté ou entendu tout ce qu'il a voulu. Enfin, il a entendu peut-être que ce qu'il a bien voulu, plutôt.
Bien voulu entendre.
Voilà. Bon. Mais je pense quand même que si le patient ne force pas, enfin, montre pas la détermination d'arriver à soigner sa maladie, quelle que soit sa maladie, avec son médecin va peut-être pas avoir l'écoute pareil. J'ai eu le cas avec mon diabète, où j'étais arrivé à une période où j'étais plus haut que je voulais. Moi, ça ne m'allait pas du tout au teint. J'ai forcé le médecin. On a passé 3 mois. On a dit, on va attendre 3 mois. On a attendu 3 mois de plus, 6 mois. Et j'ai convaincu le médecin, qui est un très bon médecin. Mais seulement, on est en équipe. On a changé un petit peu le traitement. On a obtenu le résultat que je souhaitais. Et quand je l'ai revu après, je lui ai dit, voyez, on a gagné. Mais imaginez que je n'ai rien fait, et ben on partait tranquillement, peut-être, vers une petite dérive.
C'est vrai. Bon, il est vrai. Bon, vous êtes quelqu'un qui est tenace. Donc, quand on est tenace, eh bien, on ne s'écroule pas devant cette maladie. Et on persiste, et comme on dit, on persiste et on signe devant avec le médecin, dire, moi, je veux aller plus loin. Il est vrai. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne le fait pas. On est presque, certaines personnes sont presque dans un déni quand ils voient le médecin. Oh non, non, ben ça va bien, pas de souci. Non, non, ça va bien. Ou sauf quand ça va vraiment mal, que là, le médecin est obligé de prendre une initiative. Alors, voilà pourquoi nous faisons des campagnes en milieu scolaire, grand public, pour informer les personnes non diabétiques, diabétiques bien sûr, qui l'ignorent ou qui s'ignorent, de dire ne restez jamais isolé, voyez votre médecin, passez par un médecin traitant, on peut passer par un diabétologue, sachez que je crois que c'est une des maladies que l'on peut consulter chez un diabétologue sans passer par le médecin généraliste, suivre le protocole normal. Donc, c'est pour ça, c'est là le rôle de l'association, c'est là le rôle, notre rôle, nous, membres de cette association, qui sont diabétiques ou non diabétiques, parce que dans le monde, il y en a des personnes qui sont non diabétiques, pour faire passer ce message, pour un petit peu enrayer ce fléau qui augmente toujours, tous les ans. On a un pourcentage qui arrive, qui est effrayant. 5% sur la population, pas 5%, mais 1,5% sur la population française, ça fait beaucoup de diabétiques. Ça fait beaucoup de diabétiques à la fois. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Certaines personnes savent, comment dire, tenir la bride, dire au médecin, je veux que ça soit comme ça, je veux savoir. Et là, bien sûr, vous partez en partenariat ou à trois avec un diabétologue, un médecin généraliste et un diabétologue. Mais le rôle, encore une fois, le rôle de l'association, c'est d'être sur le terrain, d'informer pour éviter de rencontrer des gens qui vont se reculer derrière ça, parce que j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui disait, oh, vous êtes diabétique? Et il me regarde, ben je dis oui. Ah, me dit le diabète général, il vous coupe les pieds puis vous ne voyez plus. Eh bien, monsieur, quand vous savez ça en pleine figure, hein, ça fait mal. Mais c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'on a des gens qui, ben, le diabète, pour eux, on ne sait pas, du fait que je n'en ai pas, je n'ai pas dans ma famille, peut-être qu'il s'ignore, ben, c'est comme ça, peut-être qu'il n'a pas. Peut-être qu'il ne le sait pas volontairement ou involontairement. Alors voilà pourquoi on est ici, pour en parler. On a passé hier après-midi, une après-midi dans la partie ici, on a fait des dépistages, on a fait des échanges, on a discuté avec des gens. Nous avons recommencé cet après-midi, et je dois le dire, nous sommes satisfaits. À ce titre-là, et un autre titre que je vais vous dire, nous venons de terminer une campagne de dépistage dans le Sud-Vienne. Et dans ce dépistage de Sud-Vienne, on a fait un petit peu plus de 400 personnes qui sont passées, qu'on a contrôlées. On faisait ça en pharmacie. Depuis quelques années, j'avais envie de faire ça. Et je me dis, c'est triste de le dire, c'est triste d'y penser. Le Sud-Vienne, c'est une région qui meurt. Il n'y a plus de population, il n'y a pratiquement plus de population. Et je me dis, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a l'angoisse qui monte et puis qu'il y a d'autres soucis? Eh bien, ça m'a fait mentir et je suis ravi. Parce que sur ces 400, un peu plus de 400 personnes, nous avons 82% de ces personnes qui avaient un taux entre 0,70 g et 1,26 g. Quoi de mieux? Quoi de mieux pour quelqu'un qui est diabétique et qui sait, ça veut dire c'est 0,70 g, ça veut dire 1,26 g. Et voilà, et je suis ravi que ces statistiques m'ont fait mentir. Parce que moi, ça dénombre que l'information au niveau national n'est pas toujours identique pour toute la France. Mais il faut savoir que dans d'autres régions du département et de la France, malheureusement, on ne trouve pas un résultat comme celui-ci. Des questions? Plus de questions? Eh bien, là, ça fait bientôt une heure que l'on échange. Ah, une question, madame.
Mademoiselle, bonsoir. J'ai une question au niveau national. Est-ce qu'il y a une région, est-ce que le nord, le sud est plus touché? Et quel type de population? Plutôt des...
Oui,
défavorisés ou...
Les régions les plus touchées, c'est le nord de la France, l'est de la France, une partie de la Bretagne, et après c'est par identification du nombre de diabétiques par région. Et on prend la région Rhône-Alpes. Là, ce sont quand même des régions totalement différentes. Quand on pense, et ça me faisait un peu réagir avec le Sud-Vienne, le nord de la France, l'est de la France, et effectivement, on est dans des régions qui sont en perte d'emploi, des gens qui perdent leurs emplois, dit perte d'emploi, moins de salaire, moins bien manger, du moins un repas moins bien équilibré. Je vous raconterai quelque chose à propos de ça. Et effectivement, dans ces régions-là, on retrouve ça. Vous allez me dire, Rhône-Alpes, c'est pas une région où les industries, où toute l'activité économique meurt. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il y a autre chose. Il y a un pouvoir d'achat qui fait que les gens mangent un petit peu plus et puis sont peut-être un petit peu plus sédentaires. Un exemple, et ça c'est dans le département de la Vienne, j'étais à ma permanence, je reçois un coup de téléphone et puis il y a un monsieur qui me dit, est-ce que je pourrais vous voir, je suis diabétique. Je dis oui, bien sûr. M'apporte son carnet sur lequel au quotidien il marquait ses taux de glycémie le matin, le midi et le soir. Et je regardais du 1er jusqu'au 15. Ça allait, c'était pas désagréable. Et après le 15, plouf, ça montait. Une semaine, toute une semaine, un mois, deux mois. Et je vous avoue que je ne savais pas pourquoi. Je lui pose la question. Je lui dis, mais pourquoi qu'à partir du 15, 20, vous grimpez comme ça? Mais il me dit, c'est pas compliqué. À partir du 15, 20, mon taux de sucre monte, mais mon portefeuille est vide. Alors, je me suis quand même trouvé un peu gêné devant cette personne. Eh bien, effectivement, dans la première quinzaine, il touchait ce dont il doit toucher, c'était consommé, et après il en avait peu ou pas, et il a acheté des aliments qui étaient moins bons que ce qu'il achetait dans la première quinzaine. Ce qui fait que, pour répondre un peu à votre question, mademoiselle, eh bien effectivement, quand on n'a pas d'argent, eh bien on ne peut pas s'acheter un aliment, pas ou peu d'argent, eh bien on ne peut pas s'acheter un aliment, un bon aliment, et cet aliment autre, eh bien il a malheureusement un effet sur notre diabète. Voilà. C'est un constat et je vous avoue que j'ai été assez choqué sur ça.
Oui, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup du diabète, mais en quelque part, l'industrie est quand même responsable parce qu'ils savent très bien que enfin, ils rajoutent du sucre alors qu'il n'y en a pas besoin. Et on est obligé de mettre plus cher pour éviter d'avoir... Enfin, moi, je suis intolérante aussi à plein d'aliments, le gluten, le lactose, tout ce qui est conservateur. Et je suis obligée d'acheter... c'est malheureux, mais d'acheter bio. Et alors que je suis à mi-temps, et c'est un investissement. Et la médecine ne peut rien faire. Enfin, c'est l'industrie, mais ils continuent à faire comme ça. Donc,
Oui, je comprends. Je comprends votre inquiétude. Je ne peux pas vous donner de réponse ce soir, mais il y a une réponse à ça. L'industrie du sel ou du sucre, c'est un commerce. Alors, quelques grammes de moins dans un aliment, que ce soit du sucre ou du sel, mais en l'occurrence, pour nous, du sucre, ça fait perdre des millions d'euros à ces industriels. Je ne suis pas ici pour faire la politique des industriels. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je vais prendre mon bâton de pèlerin demain matin et aller voir les industriels du sucre et leur dire arrêtez de mettre trop de sucre dans vos aliments parce que nous, on ne peut plus en manger. Et si ça continue, on va avoir de plus en plus de diabétiques et ça va encore nous coûter plus cher en soins. C'est vrai, vous avez raison, je vous comprends. Mais je vous avoue qu'en tant que président de l'association de la Vienne, je suis bien démuni pour pouvoir répondre à ce genre de choses et puis pouvoir leur dire arrêtez. Sachez quand même que l'AFD nationale est présente sur ces marchés et elle parle du diabète, elle parle des conséquences que du sucre, mais c'est qu'une association, c'est tout. Hein. Tant que nos ministres, nos ministères n'auront pas dit « on fait comme ça pour la santé des citoyens », je ne vois pas comment on pourra faire. Mais peut-être tous ensemble, c'est vrai. Mais je suis ravi que vous quand même posiez cette question.
Les jeunes en plus sont confrontés au quotidien. Enfin, je suis passée par là, ado. Enfin, on est confrontés, oui, on passe devant une boulangerie... Enfin, en plus, les médias, la pub, ils nous montrent, c'est que des choses... Oui, voilà, les sodas, les M&M's, toutes ces choses-là. Et forcément que ça incite, les enfants, c'est pour envier. Enfin, après, ils disent aux parents, achète-moi ci. Enfin, ça paraît...
C'est vrai.
Ça les incite, quoi, forcément.
C'est vrai,
ça,
c'est vrai.
C'est tentant.
Mais bien sûr, et c'est tentant, et ils font de sorte que ce soit tentant. Pour qu'on puisse l'acheter, que vous l'achetiez, ou que le papa ou la maman, quand ses enfants sont ici, quand ils font leurs courses, eh bien, j'aimerais bien avoir ceci, eh bien, avoir cela, ces éléments sucrés. Et quoi dire ? Est-ce que nous ne faisons peut-être pas notre travail jusqu'au bout en tant qu'association, de dire aux parents qui ont des enfants de 3 ans jusqu'à 15, 16 ans, jusqu'à l'âge de l'adolescent, faites attention. Ne faites pas manger trop de sucre à vos enfants et de sel, mais en l'occurrence le sucre pour nous. Peut-être que là, on oublie, peut-être que l'on passe à côté de quelque chose.
Jean-Claude.
Oui.
Dans les familles où il y a des enfants, il y a beaucoup de produits sucrés. Hein. Moi,
Mes
petits-enfants, je suis allée chez eux là, pour les vacances. Quand vous regardez dans les placards, il n'y a que des produits.
C'est toute
une éducation des parents.
Je crois que tout à l'heure, il y a une personne qui s'est exprimée. C'est cette dame qui est debout, qui malheureusement a un enfant qui est diabétique et qui, cet enfant, a envie de vivre comme les autres enfants. Posez-lui la question. Je pense que son fils ou sa fille doivent avoir envie autant que les autres enfants. Mais la responsabilité des parents, madame, la parole est à vous.
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des c'est comme pour tout le reste, comme pour la pollution, comme pour l'eau, pour la consommation d'eau. Il y a sans doute des facteurs à différents niveaux. Moi, j'ai envie de dire, vous avez raison, parce qu'effectivement, on peut se dire, bah, nous, parents, on éduque peut-être pas assez nos enfants mangent peut-être trop. Le mien, c'est un peu différent, forcément, ou l'école ne forme pas assez. Après, c'est vrai que c'est à nous, chacun, à notre place, de faire des efforts. Ouais. Mais en même temps, derrière, sur le plan plus général et plus sociétal, c'est vrai qu'on peut dire, c'est comme pour la cigarette, on a beau mettre fumez-tu, des tas de médecins s'épuisent. Et malgré tout, il y a des industries qui continuent. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire et tout attendre que l'industrie change et que le monde change, parce que sinon, on voit bien que nous tous, on finirait par mourir et plus pouvoir se soigner. Moi, j'ai envie de dire quand même qu'en termes d'éducation, je comprends pas mes enfants qui sont à l'école. Ils ont appris tout petit toutes sortes de choses qui me semblent pas toujours. Je suis de l'éducation nationale, enfin, je suis universitaire. C'est pas une critique du tout pour les maîtresses, mais pour les programmes. Alors qu'en fait, la diététique est pas apprise à l'école. À aucun moment, que ce soit à la maternelle, on fait quelques trucs au moment de la journée du goût, des choses comme ça. Moi, il me semble que le fonctionnement de notre corps, quand on fait de la biologie, on devrait l'apprendre. Et nos enfants l'apprendraient, et ça nous éviterait d'apprendre des glucides après à nos enfants à longueur de journée. Alors, évidemment, vous avez raison, nos enfants diabétiques ont envie de manger des bonbons. Nous, on a eu la chance d'être dans une famille plutôt sportive qui, de toute façon, faisait un peu attention à manger. Mais on a des copains, à ce qu'ils mangent, on a des copains qui vivaient, comme un peu tout le monde, mangeaient du poisson pané, le McDo, les bonbons, etc. Là, c'était plus compliqué. Alors, j'ai envie de dire, faut que nos enfants, comme les autres, puissent manger un peu de bonbons, un peu de gâteaux et un peu de tout. Mais j'ai envie de dire, comme pour les autres enfants, nos enfants, c'est plutôt bien qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent. Et je pense que, dans l'idéal, il faudrait éduquer tous les enfants pour qu'ils aient une alimentation équilibrée. Mais j'allais dire, pas forcément le mien que diabétique, plus que ma fille qui ne l'est pas et qui a 15 ans et qui mangerait bien un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que les causes sont situées à différents niveaux et j'ai envie de dire aussi que le diabète, c'est une maladie particulièrement élitiste, comme on le disait tout à l'heure, aussi en termes d'éducation, parce que tout le monde n'est pas en capacité de manipuler une pompe, d'apprendre à compter des glucides, de compter des injections. Et c'est vrai que quand on discute avec des médecins ou des infirmiers qui font de l'éducation thérapeutique, ils se heurtent à ce problème de population de niveaux différents. Donc les efforts d'éducation, ils sont importants pour nous tous, pour l'alimentation, et encore plus pour vous tous et nous tous, les familles de diabétiques, c'est sûr.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand on a un enfant de 5 à 12, 13 ans, quand on a un enfant de 5 à 12, 13 ans, qu'on l'a encore dans le milieu familial, eh bien, ma foi, on peut maîtriser. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, il faut laisser leur faire leur adolescence. Hein. Et j'ai vu des mamans qui sont venues nous voir, qui étaient désespérées parce que les enfants faisaient n'importe quoi. Le garçon disait, je m'en vais faire du foot. Et il se bourrait de chocolat ou de je ne sais quoi. Mais sachant qu'il était diabétique, il se dit, attends, pour pas que je sois en hyper, il n'avait pas calculé qu'il allait faire de l'activité physique, ou mal calculé, ou pas évalué, il s'était mis de l'insuline. Et dans le milieu du terrain, plouf, il a fait une hypoglycémie. Il se retrouve, 10 minutes, un quart d'heure après, il se retrouve à l'hôpital. Voilà. C'est très difficile, quand on arrive à l'adolescence avec cette maladie, parce qu'on est ado et on est tous passés là. Eh bien, quand on est ado, on veut tout révolutionner, hein. Ça, c'est clair.
Moi, je dirais quand même, comme le monsieur qui parlait tout à l'heure de l'IF et de la pompe, c'est vrai que l'intérêt quand même de la pompe et d'insulinothérapie fonctionnelle pour les enfants et les ados, ils savent de toute façon qu'il faut qu'ils tiennent dans la durée. Ça permet de gérer cette période d'adolescence avec un peu moins de frustration. Je ne suis pas une femme du McDo, mais mon fils va au McDo, je vais dire, une fois tous les 3 mois, peut-être. Il ne va pas mourir une fois tous les 3 mois. Et lui, il ne se sent pas différent des autres par rapport à ça, parce qu'on calcule exactement. Et après le McDo, il a des glycémies postprandrales tout à fait correctes. Mais c'est une fois tous les 3 mois et pas toutes les semaines. Mais il sera moins frustré. Quoi.
Et oui, mais malheureusement, un certain nombre d'enfants n'ont pas les parents, vous et bien d'autres, et qui laissent un petit peu. Moi, comme tout à chacun, on a dû faire des courses dans les grandes surfaces et on entend les parents, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Voilà. Je ne pense pas jusqu'à maintenant que ce sont les enfants qui décident à la maison. Tant que ça, ce sont les parents quand même. Oui, tout à fait. Oui.
On a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'année dernière à l'école, où les enseignantes ont été obligées de réunir les parents quand même, parce qu'elles n'arrivaient plus à faire la police, et en CP.
Alors, dites donc.
Dans un petit village de la région de Poitiers, et avec des bons petits pots de vin, tout, mais alors le bazar. Hein. Et les parents convoqués viennent, et la majorité des mamans, mais nous non plus, on n'y arrive pas à la maison. Ça veut tout dire.
Ben oui, c'est vrai. Bon, d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions. Ah, encore une. Et ça va être la dernière. Hein.
Ah, Bah, attends, bien, je vais finir alors. Moi, ce n'est pas vraiment une question. On se connaît, je suis diabétique, je suis à l'association. C'était un peu une petite contribution personnelle. Et puis, chacun y réfléchira pour voir s'il a aussi ce genre de problème. Et puis, ça le, pourra l'aider peut-être à se rendre compte, d'après ce que je vais dire, qu'il n'est pas forcément anormal, quoi. C'est-à-dire que par moment, vous avez des espèces de troubles de comportement du genre, vous ne tenez plus votre carnet d'insuline, ça peut arriver. Vous avez des petites choses comme ça qui paraissent bizarres et inexplicables. Moi, il y a quand même plusieurs années, j'ai cessé de faire tout contrôle glycémique pendant un an sans pouvoir expliquer quoi que ce soit. Oui, voilà, je voulais signaler le type de bizarrerie que j'avais rencontré dans ma vie de diabétique. Et puis, encore une fois, je le répète, ben, peut-être que c'est que d'autres ont eu ces bizarreries et comprendront, encore une fois, je le répète, qu'ils ne sont pas tout seuls.
Merci. Bon, encore une fois, merci d'être venu nous écouter. On n'est pas des grands orateurs, mais on est des diabétiques et on est là pour, ben, ma foi, pour la cause et puis essayer de faire diminuer ce pourcentage qui augmente. Bonne soirée et puis à la prochaine. Alors en attendant, on peut vous inviter samedi à 14h30 à Saint-Benoît à la salle, je suis en train de chercher le nom de Val-du-Clin. Nous faisons une conférence sur le diabète et l'activité physique. Alors, que l'on ait un handicap physique ou pas, ces gens que j'ai rencontrés, ils me disent à tout moment, on peut faire de l'activité physique. Merci, bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.